Radio Classique, les spécialistes.
Il est 7h40 sur l'antenne de Radio Classique, puisque nous avons écouté Jean-Luc Mélenchon, que nous allons évoquer avec Guillaume Tabar tout à l'heure. À la candidature de Xavier Bertrand, il veut, il tient. Nous avons écouté Jean-Luc Mélenchon. Il y a les hypothèses autour d'Anne Hidalgo. Elle ne voulait pas maintenant. Elle s'intéresse à cette présidentielle. Et puis, il y a évidemment, bonjour, Louis Osalter.
Bonjour, Guillaume.
Vous allez nous parler d'une autre campagne qui bat son plein, même si personne n'en parle. Il s'agit du Sénat.
Et oui, c'est une campagne feutrée qui se passe entre notables à coups de visites de courtoisie, de réunions publiques, de conciliabules. C'est donc les élections sénatoriales. Alors elles ont lieu dimanche prochain. La moitié des sénateurs va être renouvelée. Alors rassurez-vous, Guillaume, vous ne votez pas, sauf si vous êtes maire, conseiller municipal. Seuls les grands électeurs participent. Ils sont 87 000 tout de même, et d'ailleurs ils sont obligés de voter. Et forcément, ils se font beaucoup draguer ces temps-ci.
Alors effectivement, le Sénat est une institution fondamentale en France, même si certains ont souvent voulu le supprimer. Quelle est la nature du suspense ?
Il n'y en a pas beaucoup. En fait, l'immense majorité des grands électeurs sont des conseillers municipaux, comme je vous l'ai dit. Et du coup, le résultat des sénatoriales reflète en général celui des dernières municipales. Les municipales, souvenez-vous, au printemps, on a eu une poussée écolo dans les grandes villes, une raclée pour les macronistes, et puis surtout une droite et une gauche traditionnelles qui ont plutôt conforté leur position. L'élection de dimanche ne devrait donc pas beaucoup bousculer les équilibres au Sénat, où la droite restera majoritaire. Les écolos devraient être un peu plus nombreux, ce qui leur permettrait de former un groupe dans l'hémicycle. Et pour La République En Marche, ça s'annonce compliqué.
Puisque vous venez d'écrire un excellent livre sur Marion Maréchal Le Pen, vous avez le sens du suspense, puisqu'on ne sait toujours pas ce qu'elle va faire et quand elle le fera. Donc pourquoi vous nous parlez, avec ce sens du suspense, d'une élection dont vous nous écrivez l'inéluctable sortie ?
Alors j'ai quand même quelque chose à vous dire, Guillaume. Je voudrais vous raconter comment le camp Macron phosphore sur un plan pour mettre un jour la main sur ce Sénat qui est aujourd'hui le seul lieu de contre-pouvoir au président. Souvenez-vous de la commission sur l'affaire Benalla qui avait bien embêté l'Élysée notamment. Alors ce ne sera pas dimanche prochain ce plan, parce qu'en Macronie on sent bien que c'est cuit pour cette fois, mais plutôt en 2022, au moment de la présidentielle. Je vous explique. Dimanche, un jeune ministre d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, qui est maintenant ministre en charge des Outre-mer, va se présenter au sénatorial dans son département de l'Eure, où il est très implanté. Une fois élu, son but sera de débaucher des troupes en visant d'abord la droite. Et ça tombe bien, ce Lecornu, c'est un ancien des Républicains et c'est même un ami d'Édouard Philippe. Maintenant, imaginez, si Macron est réélu en 2022, peut-être qu'une grande partie de la droite ou le reste de la droite finira par le rejoindre et le Sénat deviendrait alors macroniste. Quant à notre ami Sébastien Lecornu, lui, il rêve d'accéder à la présidence du Sénat à ce moment-là, où il succéderait à Gérard Larcher. Alors vous voyez, c'est un coup de billard à multiples bandes, mais qui nous montre que le camp Macron ne manque pas d'énergie pour préparer un second mandat, alors même que ce quinquennat actuel a basculé dans le brouillard complet.
Merci mon cher Louis Osalter, livre consacré à Marion Maréchal Le Pen, dont on va rappeler le titre.
Le fantasme de la droite.
Le fantasme de la droite. Il est 7h43, nous allons parler d'économie, coup de théâtre sur TikTok, vous l'avez entendu avec Dimitri tout à l'heure. Pour l'instant, ça peut rester aux États-Unis parce que Oracle et Walmart sont entrés dans le capital. Il y a les déclarations de Thierry Breton au Financial Times, donc qui sont des menaces contre les GAFA. Mais le sujet qu'a choisi Dimitri dans un instant, et le voici, c'est une affaire qui concerne Disney et la Chine.
Guillaume Durand sur Radio Classique.
Alors bonjour mon cher Dimitri, puisque nous sommes venus tout à l'heure, mais les auditeurs nous rejoignent minute après minute. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors j'ai voulu vous parler de Mulan parce que d'abord c'est l'histoire d'une presque une malédiction. Vous savez, il y a des films comme ça, le Don Quichotte.
De Terry Gilliam.
Merci, de Terry Gilliam, qui est une catastrophe, mais c'est devenu légendaire. Et ben Mulan s'inscrit un petit peu dans la tradition de ces films peut-être maudits. Pourquoi Mulan ? Parce que, je vous rappelle l'histoire, c'est une légende chinoise, une héroïne qui va sauver l'Empire. Et alors Disney a tenté, comme beaucoup de groupes américains aujourd'hui, d'aller chercher des financements en Chine pour que le film puisse avoir une carrière chinoise. Vous savez qu'aujourd'hui, la Chine, évidemment, avec 1,4 milliard d'habitants, une population au pouvoir d'achat de plus en plus important, c'est un marché pour le cinéma qui est potentiellement immense. Hollywood l'a bien compris. Et de plus en plus, signe des coproductions avec des groupes chinois, ce qui explique, quand vous regardez au crédit des films américains, de plus en plus, vous voyez associés aux grands noms du cinéma américain des maisons de production chinoises. Donc, pour revenir à Mulan, film maudit, pourquoi ? D'abord parce que le film devait sortir il y a 2 ans, pour X raisons. La sortie du film a été repoussée à début 2020, sortie américaine le 9 mars 2020, Je ne vous fais pas un dessin, juste avant le confinement. Donc un démarrage absolument catastrophique pour le film, qui sort en Chine finalement à la fin de l'été. En ce qui concerne la France, pour l'anecdote, ce sera début décembre sur la plateforme Disney+, parce que Disney a carrément renoncé à une sortie en salle pour son film. Le problème étant qu'en Chine, pour décrocher un financement, pour que les autorités chinoises acceptent qu'un producteur mette de l'argent au capital d'un film, eh bien, il faut remplir certaines conditions. Et tout d'abord, complaire à l'idéologie du Parti communiste chinois. Et c'est là, en fait, que pour Disney, les choses se compliquent. C'est que le Mulan de Disney version 2020 n'a pratiquement rien à voir avec la légende de Mulan, qui est l'histoire quand même d'une héroïne, d'une rébellion. Si vous voulez, c'est Jeanne d'Arc chinoise, Mulan. Dans le film, au contraire, Mulan apparaît comme une figure soumise totalement à l'autorité de l'empereur. Bizarrerie aussi qui a été relevée par des gens qui ont vu le film. Le père de Mulan, c'est le sosie, le quasi-sosie de Xi Jinping. Donc le scandale, si vous voulez, est double pour Disney dans cette affaire-là, parce qu'en Chine, le film passe extrêmement mal. On reproche à Disney d'avoir maltraité une légende chinoise, et dans le monde entier, c'est un tollé, puisque Disney donne l'impression de s'être totalement soumis à l'idéologie du Parti communiste chinois. D'autant plus que certaines scènes ont de surcroît été tournées près de Caen, où sont internés près d'un million de Ouïghours dans cette province du Xinjiang. Moralité de l'histoire, vouloir faire plaisir à tout le monde, on se met tout le monde à dos. Le budget de Mulan, c'est 200 millions de dollars. À ce jour, le film n'en aura récolté que 37 millions. Ça restera sans doute comme l'un des plus grands fiascos de l'histoire de Disney.
Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Merci Dimitri. Il est 7h46. Voici le journal improbable et imprévisible, puisque nous allons parler de la Slovénie.